Hello, this is Nicky Cruz, and I'm really looking forward to seeing you for the Paris for Christ conference in May, because this is the only moment in history when I do believe that every born again Christian, every Christian that loves Jesus Christ, we need to unite our force with the forces of heaven to fight this evil all over the world. And this is started from families, countries, cities. We really are right now going through one of the biggest challenges in history for the Church of Christ. May the Lord bless you, and I'm looking forward to seeing you.
Merci Seigneur. Je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans 1 Timothée au chapitre 1er et au verset 18. Je voudrais vous parler ce matin de la bonne conscience. Vous savez, j'ai regardé sur Internet et je vois parfois certains messages où on parle de la conscience ou de la mauvaise conscience, et je n'ai rien vu sur la bonne conscience. Et quand nous voyons plusieurs passages, plusieurs textes de la parole de Dieu, on s'aperçoit que le Seigneur insiste sur cette bonne conscience. Et je voudrais qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur ce texte de 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. C'est Paul qui écrit à Timothée, son compagnon d'armes, et vraiment celui qui va l'accompagner dans son ministère. Il dit « Timothée, mon enfant ». C'est vraiment quelque chose de très fraternel. « Voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites à ton sujet. » T'appuyant sur elle, combat le bon combat, ça c'est la première chose. En gardant la foi, ça c'est la deuxième. Et une bonne conscience. Et il précise ceci en disant, cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage quant à leur foi. Amen. Dans ce passage, quand je vois au début la première phrase, il nous dit que c'est une instruction que je t'adresse conformément aux prophéties. C'est-à-dire que c'est une parole qui vient de Dieu là. Et Paul dit à Timothée, voilà, je te parle de la part de Dieu, je te dis, j'ai trois choses à te dire. Et quand Dieu parle, au travers des Écritures, il ne parle pas seulement à Timothée, mais on sait que pour chacun d'entre nous, la Bible nous parle. Elle s'adresse aussi à nous. Ce texte s'adresse à nous et il donne trois points très précis. Il dit, combat, le bon combat. Il continue en disant de garder la foi et une bonne conscience, et il précise en disant, quelques-uns l'ont perdu. Dans ce chapitre, Paul parle à Timothée sur cela et dit toujours au chapitre 1er, mais au verset 5, juste un peu avant ce que je viens de lire là, juste un peu avant, il dit, le but de cette instruction, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le bon combat. Je crois que nous avons besoin, frères et sœurs, de faire attention de ne pas nous tromper de combat. Parfois, on croit que notre voisin, notre proche, certains de notre famille, ce sont nos ennemis. Et la parole de Dieu nous montre au travers de plusieurs textes que l'adversaire de nos âmes, c'est Satan, c'est ses démons. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul signale à Timothée, combat le bon combat, ne te trompe pas, ne perds pas de temps. Mais je voudrais aller un peu plus loin parce qu'on va s'arrêter sur la conscience. Peut-être plus tard, on abordera ces autres points. Mais il nous est parlé aussi de cette foi sincère. C'est une foi qui repose sur la pureté. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans 1 Timothée, au chapitre 3, verset 9, qu'il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est-à-dire que la foi est liée directement à une conscience pure. Si tu es dans le péché, si tu es dans l'impureté, tu ne peux pas avoir cette foi sincère. On peut parler de foi, crier en disant « je suis chrétien, j'ai la foi », et que si tu es dans le péché, si tu es vraiment dans ce qui n'est pas de Dieu, tu as perdu cette foi sincère. Tu as peut-être une foi, mais pas celle qui est sincère. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée que tu gardes cette foi sincère, honnête, authentique, parce qu'elle est liée directement à la bonne conscience. Cette conscience, le monde là, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi elle a cette conscience. D'abord, quand on parle de conscience, on s'est peut-être retrouvé parfois devant des situations dans la vie un peu particulières quand la caissière de la supérette nous redonne trop de monnaie. Ça vous est déjà arrivé ? Qu'elle vous donne trop de monnaie ? Moi, ça m'est arrivé encore il y a quelques temps de ça, trop de monnaie, je l'ai rendue, je ne vous dis pas la tête de la personne. Et derrière moi, les gens disent, mais lui, complètement, il n'a rien compris. Oui, j'ai tout compris, c'est que j'avais une bonne conscience. C'est que ma conscience m'a parlé pour me dire, j'avais même pas besoin de réfléchir 30 secondes, il fallait juste automatiquement que je le rende, parce que ma bonne conscience m'a poussé automatiquement à rendre la monnaie. Quand on a eu des mots trop durs à l'égard de notre conjoint, et que notre conscience nous parle parce qu'on est allé trop loin dans les mots, dans les propos, nous avons deux façons de voir les choses. On se dit non, mais je dis rien, je me positionne et je reste dans l'orgueil. Ou je vais la voir parce que ma conscience me parle et que je veux me libérer de ça. Je vais lui dire, chérie, je te demande pardon. La conscience, et ça le monde est capable de pouvoir le vivre, ça. Cette conscience-là, quand on rajoute des compétences fantômes à notre CV pour essayer d'avoir un job, et tant de choses comme cela qui peuvent s'accumuler au fur et à mesure. La société vous donne plein d'idées pour pouvoir être en contrefaçon avec votre conscience, pour vous bousculer, vous amener à faire, je dirais, à la faute. Ça, le monde est capable de pouvoir le faire, mais la bonne conscience va plus loin que tout ça. On n'a pas besoin d'être chrétien pour rendre la monnaie à quelqu'un à la supérette. On n'a pas besoin d'être chrétien pour juste dire un CV, il faut qu'il soit clair, net et qu'il soit exactement selon mes compétences. Alors, pourquoi la parole de Dieu nous parle de la bonne conscience ? Parce que la bonne conscience va nous amener dans un domaine qui nous dépasse quelque part, mais que nous avons besoin de vivre. La bonne conscience est en parallèle avec le côté bienheureux. Vous allez me dire, quel rapport avec le bienheureux ? Bien, la parole de Dieu nous dit dans Luc, chapitre 1er, verset 48, au sujet de Marie, « Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuses. » Dans le psaume 34, verset 9, il est dit « Bienheureux est l'homme qui se confie en lui. » Quelqu'un de bienheureux, c'est un chrétien. Le monde dans lequel nous vivons, il y a des gens qui sont malheureux. Il y a des gens qui sont heureux. Vous pouvez croiser dans la rue, dans la ville, des gens heureux. Mais la parole de Dieu nous dit « Toi, mon frère, ma sœur, toi qui es chrétien, tu es bienheureux. Tu es plus qu'heureux, tu vas au-delà. » Tu es bienheureux parce que Dieu t'a marqué de son sceau divin. Même s'il y a des moments de douleur, de difficulté, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre pour qu'il puisse être bienheureux. Alléluia. Alors pourquoi je veux vous amener à ça ? Parce qu'il existe aussi, dans le domaine de la conscience, la même chose. On est dans un monde où les gens ont parfois mauvaise conscience. On est dans un monde que vous allez croiser dans la rue des gens qui ont de la conscience, une conscience dans leur cœur, qui seront capables de pouvoir rendre la monnaie. Mais la parole de Dieu nous parle de bonne conscience. Et là, la bonne conscience, c'est comme dans le domaine de bienheureux, c'est pour les chrétiens, c'est l'œuvre de Dieu, ça fait partie de l'Église de Christ. La bonne conscience fait partie du peuple de Dieu. On est dans un monde où il y a la mauvaise conscience, la conscience, mais dans l'Église, il y a la bonne conscience. Et quand il y a la mauvaise conscience, Dieu va nous toucher pour passer de la mauvaise à la bonne conscience. Une bonne conscience, c'est une conscience qui s'appuie sur la parole de Dieu, sans concession. Je dis sans concession. Si la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas acceptable, rien ne justifiera le contraire. Rien. Même si notre conscience ne nous condamne pas. J'ai eu parfois l'occasion d'accompagner des personnes qui étaient fiancées et qui allaient se marier et qui ne trouvaient rien à la fornication. Et ils me disaient, mais monsieur le pasteur, nous on ne trouve rien à ce qu'on se retrouve ensemble et qu'on fornique. Où est le problème ? Nous, on se sent bien, notre conscience ne nous interpelle pas. Sauf que la parole de Dieu, elle dit le contraire. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, la parole de Dieu nous dit que si ce n'est pas acceptable, rien ne justifiera le contraire, même si notre conscience ne nous condamne pas. C'est-à-dire que la parole de Dieu prime sur notre conscience. Et entre nous, quand on en est là, on n'a plus la bonne conscience. On a déjà la mauvaise conscience. C'est pour ça que dans 1 Timothée chapitre 4, verset 2, il dit « Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience ». Qui n'arrivent plus à discerner ce qui est du bien ou mal. Et ils font passer leur conscience au-dessus de la parole de Dieu. On se cache derrière tout ça. Des fois, parfois, même, ça nous arrange. Mais ça fait tellement de mal, ça fait tellement de dégâts, et on va le voir un peu plus loin. Il y a la conscience de Dieu et notre propre conscience. Quelqu'un a dit, si les arbitres de votre choix sont vos sentiments et vos impressions, vous finirez par laisser la tentation vous dominer et faire naufrage quant à la foi. Et combien de frères et sœurs ont mis au-dessus, en arbitre, les sentiments et les impressions. « Oh, mais j'ai le sentiment, j'ai l'impression que c'est bon. Il faut le faire, c'est comme ça. » Mais vous finirez par laisser la tentation dominer et faire naufrage quant à la foi. L'argument tel que tout le monde le fait, où il faut être moderne, où ce n'est pas si grave, ça appartient à la conscience du monde, mais pas à la bonne conscience. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que nous devons le faire. Ce n'est pas parce que tout le monde vole au boulot que nous devons aussi voler. Au contraire, notre bonne conscience va nous montrer la différence et va faire que nous allons être des lumières dans ce monde de ténèbres. C'est ça la bonne conscience. La bonne conscience nous amène à montrer la différence au monde qui ont, eux, peut-être mauvaise conscience ou simplement une simple conscience. Mais nous, avec notre bonne conscience, on va montrer quelque chose de particulier. C'est la raison pour laquelle notre position dans la société n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce que quand on parle de mariage pour tous, quand on parle de la PMA, de la GPA, nous sommes en opposition. Ces arguments sont en opposition aux valeurs bibliques. Notre bonne conscience nous interpelle. Et parfois, peut-être, certaines de vos amis vous ont même posé la question par rapport à ça. Prenons l'exemple de Daniel. Daniel, au chapitre 1er, verset 8, il dit quelque chose de très intéressant. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous savez que dans ce texte, Daniel vient de rentrer dans la royauté, il vient de rentrer dans le palais du roi. Il vient d'être embauché. Il était avec quelques amis, quelques frères et sœurs. Imaginez quelques instants, frères et sœurs, que tu sois embauché auprès du président de la République et que tu travailles à ses côtés. Je crois que celui qui a ça et qui a une page Facebook, je vous garantis, en 10 minutes, il va inonder tout Facebook pour expliquer qu'il est proche du président. Et là, le président te fait des faveurs, t'accueille, te dit, voilà, maintenant, tu vas faire ceci, cela. Et là, Daniel s'est retrouvé dans la même situation. Sauf que Daniel, dans son cœur, il s'est résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Parce qu'il savait très bien qu'en se retrouvant à manger à table avec le roi, avec le vin, il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que cette table, mais il y avait toutes les festivités autour. Et le tour, c'était vraiment des festivités malsaines, avec la corruption, avec le côté malsain, érotique, et tout ce que vous voulez, et tout le côté pervers de ce monde. Et lui, Daniel, dans son cœur, il supplia le Seigneur d'être détaché de ces choses. Il venait de rentrer auprès du roi, la première des choses de dire, c'est de dire « Non, mon roi, je ne peux pas venir avec toi et je ne peux pas t'accompagner. » Sa bonne conscience lui refusait d'accompagner le roi. Là où certains disent « Ouais, c'est un privilège, c'est formidable, je suis auprès du roi, c'est extraordinaire, et c'est bon, maintenant j'ai une bonne situation. » Sauf que là, lui, Daniel, dit « Non, ce n'est pas une bonne situation pour moi. » Et tu vas te retrouver parfois devant des situations où tu auras besoin de faire des choix. Ta conscience, ta bonne conscience va t'interpeller. Va te dire, là, tu vas trop loin, là, tu ne peux pas. Et pourtant, tu es en train de peser le pour et le contre. Je vais peut-être gagner plus d'argent, j'aurai peut-être plus d'influence, ça serait peut-être bien. Et puis, Seigneur, c'est peut-être pour toi. Et j'ai prié pour ça. Sauf que tu as prié pour ça, mais tu n'avais pas tenu compte qu'en faisant ça, en rentrant et en acceptant peut-être la décision que tu dois prendre là, tu rentrais dans des compromis. Et on va en parler dans quelques instants. Et aujourd'hui, tu as un choix à faire. Et tu es touché, tu es bousculé dans ta bonne conscience et tu ne sais pas s'il faut que tu fasses ou si tu ne le fasses pas. Tu ne sais pas s'il faut que tu t'engages ou si tu ne t'engages pas. Quelque part, tu as la bonne conscience qui te parle, qui te bouscule, mais quelque part, tu veux négocier avec Dieu. On négocie rien avec Dieu. On négocie absolument rien avec Dieu. On va le voir dans quelques instants. L'occasion d'être vu, remarqué par le roi, mais ce n'était pas dans la pensée de Daniel. Je connais un frère, un ami très proche, depuis plusieurs années on est ensemble. Et ce frère a une grande position au niveau en tant que directeur de banque. Il avait une position juste énorme. Et à un moment donné de sa vie, alors qu'il avait réussi dans tout son parcours de directeur, on lui a proposé encore un pont d'or juste formidable. Et à un moment donné, on lui a dit, voilà, OK pour ce pont d'or et que tu puisses avoir toute la responsabilité d'un grand secteur banquier en France. Voilà, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu sois franc-maçon. Il avait tous les avantages. Il avait la voiture, il avait la maison qui lui était donnée. Maison de 350 mètres carrés. Il avait une voiture de luxe, haut de gamme. Il avait un salaire qui était 3-4 fois celui qui était déjà le sien, qui était énorme déjà. Et là, à une fraction de seconde, il a, quelque part, à un moment donné, il a failli dire oui. Il se retrouvait, on en a parlé ensemble. Et là, il a passé 10 jours dans le jeûne et la prière. Il savait très bien qu'il ne fallait pas qu'il rentre dans ce truc-là. Mais dans son cœur, il avait comme une lutte, un combat. Il fallait que vraiment le Seigneur lui enlève ce trouble qui était là dans son cœur. Et cet homme, il a quitté la banque, il a quitté ce secteur banquier, puis il est rentré et il a commencé à travailler dans la grande distribution. Et il a commencé à prendre, comment dirais-je, tout un service de... Attends, je vais descendre un peu plus bas parce que j'ai pris le témoignage qui était à la fin, en fait, et je vais vous le donner maintenant. Il a pris tout un service, c'était une gérance d'une chaîne de magasins. Et cet homme, à un moment donné, il était très carré, il était très, très, très clair dans sa façon de fonctionner. Si on volait au magasin, eh bien, la personne était directement licenciée. Et là, il s'est retrouvé là, à un moment donné, l'employé qui a volé. Et cet employé, le problème, c'est que son épouse, c'était un homme d'influence. Un homme qui avait... vraiment une grande position dans toute la ville, et pas seulement dans la ville, mais dans toute la région. Et là, cette femme a volé, et puis il lui a dit, écoutez, moi, pour moi, c'est très clair, je suis désolé, je vais vous licencier. Et cette femme, elle est sortie, il lui a dit comme ça, dit, je vais vous tuer. Et quand il dit, je vais vous tuer, il lui a dit tout simplement, je vais tuer votre magasin. Je vais fermer, je vais vous faire fermer le magasin. Écoutez-moi bien. 15 jours après, on a frappé à la porte un inspecteur des impôts. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, savoir la filière française de Microsoft a fait l'objet en 2013 d'un redressement fiscal de 52 millions d'euros. Ben, il a été fait par cet inspecteur. Cet inspecteur est venu, quelqu'un d'assez froid au départ, et en général, dans les magasins comme ça, il reste 3 mois, il est resté 6 mois dans ce magasin. Et la fouille a dit, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose qui doit pas être clair pour qu'on puisse me demander d'y aller, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il a fouillé en long, en large, il a travaillé dans tous les sens, il a essayé d'éplucher tous les documents, l'ordinateur, il est resté 6 mois. Et au bout du 5e mois, il a commencé à sympathiser avec le gérant, qui s'appelle Patrick, un chrétien. Ils ont échangé ensemble, et puis à un moment donné, ils ont commencé à parler de Dieu. Et lui, il a commencé à évangéliser l'inspecteur. Alléluia. Et cet homme a été touché dans son cœur. Et puis, à un moment, arrivé au bout de 6 mois, il dit comme ça, écoutez, monsieur, je ne vais pas dire le nom, mais Patrick, je n'ai rien à redire. Vous êtes quelqu'un de clean. Mais franchement, au départ, je croyais que c'était louche, justement, ce côté clean. Et ce frère de dire non, vous savez, j'ai ma bonne conscience avec moi. Écoutez-moi bien, je crois que c'est ça qui est le plus important pour nous. C'est d'avoir cette bonne conscience dans notre cœur. Et Daniel, lui, avait résolu de ne pas se souiller. Et ça me fait penser à ce témoignage de ce patron. Ce patron qui avait une équipe dans son entreprise, une vingtaine, trentaine de personnes. Et c'est véridique ce que je vous dis là. Et ce patron avait l'habitude, toutes les années, d'offrir un cadeau, un voyage à toute son équipe. Alors parfois, il partait une journée au ski. Notre fois, il partait une journée à la mer. Parfois, c'était le restaurant. Et chaque année, quand ils arrivaient, qu'ils avaient fait leur chiffre d'affaires, ben, il bénissait ses employés. À un moment donné, il s'est retrouvé, le patron a eu l'idée, quelque part, de les inviter dans un cabaret tendance érotique. Et là, le frère s'est retrouvé devant un problème. Il s'est retrouvé devant un problème parce que cet homme, ce patron, avait un certain caractère. Quelqu'un qui refusait de vraiment qu'on se braque et qu'on lui dise le contraire. C'était quelqu'un qu'il fallait toujours lui dire oui. Et quelqu'un qui avait une certaine influence, une certaine autorité. Tout le monde le craignait. Ce frère était allé voir ce patron, lui expliquer ses valeurs, sa bonne conscience, tout ça. Et lui, il n'a rien voulu savoir. Et ils ont entendu dans un bureau crier. C'était quelqu'un qui s'est vraiment énervé. Il ne comprenait pas cette position qui était pour lui complètement stupide. Et puis à un moment donné, 15 jours après... Le patron s'est retrouvé à négocier avec un fournisseur sur une situation. Et cette situation, cette négociation s'est retournée et il s'est retrouvé à devoir prendre une décision grave qui allait toucher sa conscience à ce patron. Et au moment où il s'est retrouvé dans cette situation grave qui allait toucher sa conscience et qui le bousculait dans sa conscience, il s'est rappelé de l'événement 15 jours auparavant avec le chrétien. Là, il est rentré, il est allé à son bureau, il a demandé au chrétien de venir à son bureau, il lui a expliqué la situation. Elle dit, écoutez, je voulais vous expliquer une situation. Je voulais que ça reste entre nous et que vraiment on puissions être discrets. Puis il a expliqué son problème avec le fournisseur. Et là, le chrétien lui a donné la solution. Et il s'est dépatouillé, il s'est sorti de cette affaire. À partir de là, tout a changé dans la vie de ce chrétien. Tout cela parce qu'il a gardé une bonne conscience. Parce qu'il a gardé les valeurs qui étaient les siennes. Parce qu'il ne s'est pas, comment dirais-je, dénaturé. Nous devons prêter attention aux témoignages que notre conscience nous rend nous-mêmes, frères et sœurs. Faisons attention de savoir rentrer en nous-mêmes, savoir si ce que nous faisons est bien, sans regarder forcément aux conséquences. Pourquoi ? Ainsi, ce que pensent ou disent les gens a peu d'importance, mais ce que Dieu pense de nous est primordial. Ce n'est pas ce que pensent les gens et les conséquences que cela pourra avoir qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi, de ta position, de tes valeurs, de ce que tu crois. Il y a tellement de chrétiens qui se sont éteints à un moment donné parce qu'ils se sont laissés piéger par cette conscience. Ils se sont livrés à tous ces penchants et ont perdu cette bonne conscience qui était au plus profond de leur cœur. Et parfois, certains chrétiens ont l'apparence de la piété, mais ils ont perdu tout ce qui en fait la force à cause de ça. Sachez une chose, c'est qu'une bonne conscience nous donne de l'assurance devant Dieu. Waouh ! Ça nous donne de l'assurance, car nous sentons approuvés, soutenus de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que si vous êtes atteint, que vous avez pris une mauvaise décision, que vous vous sentez culpabilisé, accusé dans votre cœur, vous n'avez pas l'impression que c'est dur de louer, de prier le Seigneur à ce moment-là ? Venez à l'église, tout le monde lève la main, mais toi tu te sens mal de lever la main, de louer le Seigneur, tu ne te sens pas digne. Parce que quand on a une mauvaise conscience, on n'arrive pas à rentrer dans la présence de Dieu. Il y a comme quelque chose, une barrière, ça nous empêche de le louer, de le chanter, de l'adorer, de le célébrer. Alors que quand on a une bonne conscience, les barrières se brisent, l'œuvre de Dieu, je dirais, touche notre cœur, notre vie. Il y a comme quelque chose de particulier qui prend place au plus profond de notre cœur. Une bonne conscience nous donne aussi de l'assurance devant les hommes, comme ce chrétien face à ce patron. Nous n'aurons pas à craindre les prises de position des hommes. C'est l'exemple que nous retrouvons dans Actes chapitre 23, verset 1er. Paul nous a dit que Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Écoutez ce texte. Il faut savoir que les Sanhédrins étaient le tribunal suprême, c'était la haute autorité judiciaire. Et là, l'apôtre Paul se retrouve devant les 70, parce qu'ils étaient 70, et ils les regardent tous dans les yeux. Il leur dit « homme frère ». En plus, il les considère comme des frères. Il regarde dans les yeux, s'adresse à eux la tête haute. Parce que quand on a une bonne conscience, on n'a pas peur. Quand on a une bonne conscience, ce n'est pas nous qui devons baisser les yeux, c'est l'autre en face. Je n'ai pas à baisser les yeux devant quelqu'un qui est là à voler, à tricher, à détruire. Quand on a cette bonne conscience, on a l'autorité de Dieu sur notre vie. C'est pour ça que Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit ceci d'extraordinaire. C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. L'apôtre Jean nous donne une excellente raison pour préserver notre bonne conscience. Il dit, bien-aimé, si votre cœur ne vous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Il n'y a rien de plus terrible que d'être condamné par notre conscience. On perd toute assurance, mais on ne peut rien demander à Dieu parce que si on demande, il va nous dire « il faut que tu te mettes en règle ». Ça a des conséquences sur notre vie chrétienne, d'avoir une mauvaise conscience. Ça a des conséquences dans notre vie chrétienne quand on perd cette bonne conscience. Alors que ce texte nous dit, quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous les gardons, nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Ça vaut la peine d'avoir une bonne conscience. Ça vaut la peine de pouvoir garder ses valeurs chrétiennes. Cela m'amène à vous parler d'un tueur de bonne conscience. D'un tueur de bonne conscience. Quand j'ai préparé mon message sur la prédication, sur ce message, je travaillais sur la conscience et à un moment donné, Dieu me ramenait toujours sur ce mot. Puis à un moment donné, j'essayais de continuer sur la bonne conscience, mais il me ramenait, il me disait, il faut que tu mettes ce mot-là, il faut que tu rajoutes cette pensée. Et je crois, ce matin, en toute honnêteté et vraiment en toute humilité, je crois que c'est une parole qui vient de Dieu. C'est comme un don spirituel que je vais partager ce matin à plusieurs personnes, peut-être à une ou plusieurs personnes, et qui est lié directement à la conscience. Le tueur de conscience, ce sont les compromis. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 22, il dit ceci, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi inébranlable. » On reparle de foi là, une foi même sincère dans l'autre texte que nous avons vu tout à l'heure. « Un cœur purifié d'une mauvaise conscience. » Certains sont tombés dans des compromis, sont tombés dans ce piège. Les compromis nous bousculent. De la bonne, de la bonne conscience, il va nous amener à la mauvaise conscience. Les compromis est un arrangement dans lequel deux parties font concession mutuelle. On peut avoir des compromis sur une situation très particulière, banale, de tous les jours, et on fait peut-être des compromis tous les jours dans notre vie avec les gens, au boulot, peut-être avec les amis, avec la famille. Mais là où je veux vous amener, c'est quand ça touche la doctrine. Quand les valeurs chrétiennes, notre ADN spirituel, sont compromis. Quand on s'amuse avec ces choses-là, ça devient un cancer pour notre vie. Les compromis deviennent comme un cancer dans notre vie. Ça nous détruit de l'intérieur. Ça nous détruit de l'intérieur parce qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Parce qu'on est rentré dans des chemins, dans des voies de garage. Parce qu'on a pris des décisions et qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Parce qu'on a rentré la main dans le pot, on a voulu saisir ce qui n'était pas bon et on n'a pas voulu lâcher. Parce que si on lâche, on perd tout. Et quelque part, les compromis ont amené des chrétiens à s'éteindre, à faire même naufrage quant à la foi. C'est ce que dit Paul par rapport à ces deux chrétiens, à ce couple chrétien. C'est terrible de devoir tomber dans les compromis. Comment réussir dans un monde où la fin justifie les moyens? Parce que c'est ce que dit le monde. La fin justifie les moyens. Alors on va tout faire pour réussir, à vendre presque son âme au diable. Parce que les compromis, c'est ça, c'est livrer une partie à l'adversaire alors qu'on appartient totalement, complètement, entièrement à Dieu au départ. Et on a donné une petite partie à l'adversaire, on s'est amusé avec lui et lui nous a pris dans ses griffes et il ne va pas nous lâcher, il voudra essayer de t'enfoncer, de te tirer vers le bas. Tu auras beau crier comme ça, mais tant que tu ne lâcheras pas ces compromis, lui te tirera vers le bas. C'est ça les compromis. Et c'est lié à la mauvaise conscience dans notre vie. Des dessous de table qui serviront à calmer les esprits. Des arrangements avec des concessions mensongères, des propositions malhonnêtes. Parfois même des demi-vérités. Quelqu'un qui me disait récemment, un chrétien, je vous rassure, pas de Bastille, mais un chrétien est venu me voir, me dit, Didier, il est passé à une entreprise à la maison pour faire des travaux, j'en ai au moins pour 15 000 euros. De travaux et il m'a proposé une chose, c'est une partie en chèque et l'autre en liquide. Il me dit, Didier, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, ben, tu vois, ta question, c'est la réponse. Tu es en train de répondre au travers de ta question. Parce que si tu te sens mal en me posant la question, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et combien de frères et sœurs se sentent piégés, se retrouvent piégés par rapport à toutes ces choses-là? C'est comme du miel au départ, mais quand tu as pris et que tu l'as saisi, ça te colle, tu n'arrives plus à t'en défaire. Et si tu le prends et que tu l'avales, c'est comme un fiel amer qui est en toi et qui te détruit, qui te brise. Compromis, c'est terrible parce qu'on est tellement piégé qu'on a peur d'en parler. On a honte d'en parler. On a honte de se livrer. On a honte de dire qu'on s'est laissé piéger, parfois même tout bêtement. On est pris par la culpabilité. La conscience nous bouscule. Et puis finalement, on s'est laissé entraîner par toutes sortes de voies de garage et on n'ose même pas en parler au pasteur, à ses amis, à ses proches, à ses frères, à ses sœurs. Et on se débat. Et plus on se débat, c'est comme les sables mouvants, et plus on s'enfonce. Et je crois qu'au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui sont tombés dans ce piège, des compromis, ils ne savent pas comment s'en défaire. Et tu te dis, mais si je prends telle ou telle décision, ça va avoir des conséquences. Oui, c'est vrai, forcément, ça va avoir des conséquences sur ta vie. Mais si tu prends la bonne décision, le Seigneur pourra changer le mal en bien. et renverser la situation afin que Dieu vienne poser sa main de manière puissante. Alors refusons les compromis qui sont des raccourcis trompeurs. Car l'Écriture déclare que celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Proverbe chapitre 10, verset 9. Pas de compromis. C'est pour ça que je vous rendais ce témoignage de ce frère chrétien, le gérant de cette chaîne de magasins, qui n'a pas voulu faire de compromis, qui n'a pas voulu négocier avec le diable, qui a été droit, qui a été clair avec tout le monde. C'était comme cela. Il savait ce qu'il faisait en licenciant cette personne. Mais ce qu'il avait fait pour les uns, il était obligé de le faire pour les autres. Parce que sa conscience l'interpellait, parce que son cœur l'interpellait. Je vais demander aux musiciens de venir prendre place. Que vraiment nous puissions être interpellés dans notre cœur au travers de ce mot-là, de la conscience et des compromis, frères et sœurs. Je crois que nous avons besoin vraiment de veiller. Il y a tellement d'enjeux dans notre vie chrétienne. Il y a tellement de pièges dans ce monde. Il y a tellement de situations qui peuvent nous tirer vers le bas alors que nous avons des promesses de Dieu. Nous attendons des promesses du Seigneur. Nous attendons la main de Dieu venir parler à nos cœurs, à nos vies, à nos familles, à nos voisins, à nos proches, à nos enfants. On a tellement envie de voir la gloire de Dieu que le diable va se présenter devant toi avec des compromis. Le diable va se présenter devant toi pour te tirer vers le bas et te pousser vers une mauvaise conscience. Il y a mille et une choses sur cette terre, au travail, à la maison et de partout, qui pourront t'amener à te retrouver dans une position délicate. Et le Seigneur voudrait que tu brises cela ce matin. Le Seigneur t'a averti, et je pense que c'est une parole de Dieu qui est là pour te dire, il faut que tu arrêtes. Tu ne sais pas quoi faire. Viens voir les pasteurs, on va t'accompagner. On est là pour t'aider, on est là pour te donner une main d'association. On est là pour te tirer de cette situation. Peut-être que tu as fait des erreurs, qui n'en fait pas dans la vie. Je crois que nous avons besoin de comprendre cela, frères et sœurs, ce matin. Il y a ce texte que je voulais vous laisser sur votre cœur dans 1 Pierre 3,16. Ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient confondus. Vous ne serez pas toujours compris au travers de votre bonne conduite. Et ce n'est pas en se mêlant dans ce monde et en faisant comme eux que vous arriverez à les gagner au Seigneur. Mais c'est en étant des flambeaux dans ce monde de ténèbres. Frères et sœurs, nous avons une mission sur cette terre. Nous avons été arrachés de la boue du péché, nous avons cette mission. Alors accomplissons notre mission sans compromission. Sans tomber dans la compromission. Que nous ne laissons pas l'avantage à l'adversaire. Il se fera un plaisir de te détruire. Il fera un plaisir d'anéantir les projets de Dieu qu'il y a sur ta vie. Il se fera un plaisir de t'anéantir, de te briser. Il y a un frère au milieu de nous qui me partageait il y a quelque temps de cela et je vais arrêter là. Après, on pourrait se lever peut-être à notre place si vous le souhaitez. On va se lever ensemble. Un frère me disait dernièrement, il travaille dans l'immobilier. Et me disait combien de tentations, combien d'occasions qui sont là souvent, qui m'ont été poussées. On m'a proposé toutes sortes d'avantages. Et régulièrement, on lui propose des avantages en lui disant, tiens, si tu fais ça comme cela, si tu fais des compromis, ben, tu auras un salaire de plus supplémentaire de 10-15 000 euros dans le mois. C'est tentant, 10-15 000 euros dans le mois. Mais quand on tombe dans des travers, dans les compromis, quand on négocie avec maman, l'esprit du diable, l'argent qui est l'esprit de maman qui vient pour te détruire, pour t'anéantir, quand tu commences à jouer avec ces choses-là, tu te brûles. Tu te brûleras vite les ailes spirituelles. Et ce frère qui n'a jamais voulu rentrer dans ses compromis, qui n'a jamais voulu négocier avec l'esprit de maman, ben il est un des seuls à réussir dans son job. Là où c'est dur pour certains à vendre un appartement, une maison, à vendre ceci et à acheter, lui trouve toujours, toujours le moyen de pouvoir finir les fins de mois avec un bon salaire. Tout cela parce qu'il n'a pas voulu, il s'est résolu à ne pas se souiller avec l'aimé du diable. Et je crois que nous avons besoin de prendre position, frères et sœurs, parce que nous sommes parfois dans des carrefours dans notre vie. En tout cas, l'Église est dans un carrefour de son existence qui va faire que nous avons besoin d'avoir un cœur pur, une bonne conscience, si nous voulons participer à cette œuvre de Dieu et rentrer dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions rester dans le recueillement quelques instants. Et on va se laisser conduire par ce chant de Tatiana, Sylvain. Et que pendant que ce chant est chanté, que nous puissions rester dans ce recueillement, peut-être qu'au milieu de nous, plusieurs se retrouvent là avec des compromis, avec une conscience atteinte, brisée, peut-être avec même une mauvaise conscience. Et pendant ce chant, tu puisses t'adresser à Dieu ce matin, qui vienne agir sur ta vie ce matin, qui vienne poser sa main sur toi ce matin, et qui fasse une œuvre vraiment de reconstruction, qui vienne briser les compromis qu'il y a là sur ton cœur, et que vraiment le Seigneur puisse se glorifier puissamment sur ta vie. Alléluia. Restons dans le recueillement quelques instants, et nous prierons à la fin ensuite.